Studio Tamani, toute la voix du Mali.
Studio Tamani, voici les informations en français.
Les grandes lignes de cette édition: des accords entre la Direction nationale des sports et de l'éducation physique et la Fédération malienne de football. Depuis quelques jours, les deux entités se répondent à travers des correspondances. Subvention de l'USAID au Mali, le gouvernement affirme n'avoir signé aucun accord depuis 2 ans. Il invite les autorités américaines à engager des poursuites judiciaires contre les personnes qui ont détourné les 10 fonds. Les réseaux sociaux et leurs conséquences sur les relations humaines, c'est le sujet abordé dans notre dossier de la semaine. À la présentation, Adama Amadou Haïdara, la mise en onde est assurée par Sidou Ndao. Mesdames et messieurs, bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Une brouille entre la Direction nationale des sports et de l'éducation physique, DNSEP, et la Fédération malienne de football, FEMAFOOT, est en gestation. Les deux entités se parlent via des correspondances. Dans la dernière publiée sur les réseaux sociaux, la Direction nationale des sports et de l'éducation physique met en garde la FEMAFOOT contre l'organisation de son assemblée générale extraordinaire avant la tenue d'un audit de performance. Imran Kiloumeiga nous en dit plus.
Depuis quelques jours, des courriers fusent de deux côtés. Les deux entités sont en désaccord par rapport à l'organisation de l'Assemblée générale extraordinaire. La FEMAFOOT, qui s'est dit une association autonome liée à la FIFA, veut organiser cette rencontre le 28 février prochain. En réaction, la DNSEP s'oppose à la tenue de la rencontre. Elle demande de surseoir à toute modification de texte pour préserver un climat social apaisé dans le milieu footballistique. Un autre courrier, cette fois-ci de l'inspection du secteur de sport, relevant du ministère des Sports, demande de faire un audit de performance qui prend en compte la gouvernance au sein de la FEMAFOOT. En réponse, la FEMAFOOT affirme que cette inspection n'a aucune base juridique et contrevient à un principe sacro-saint de la FIFA qui interdit toute ingérence politique dans la gestion des fédérations. Est-ce une nouvelle crise qui se pointe à l'horizon? En attendant, les yeux sont rivés sur la tenue ou pas de l'Assemblée générale extraordinaire du vendredi prochain.
Pendant ce temps, des dirigeants sportifs sont montés au créneau pour dénoncer les agissements du comité exécutif de la FEMAFOOT. Ils l'ont fait savoir ce lundi 24 février lors d'un point de presse et demandent au comité exécutif de respecter les tests et de renoncer à la rencontre prévue le 28 février prochain. Gandiaba Cissé est le président de l'AS Nyoro. Il est au micro de Juliette Koulibaly.
La Fédération malienne de football, aujourd'hui, au niveau de sa gestion, a révélé des failles depuis la mise en place du comité exécutif le 29 août 2023. C'est un bureau qui n'a pas fonctionné. On est à 18 mois, pratiquement il n'y a eu que 4 sessions ordinaires de réunion. Maintenant, les dispositions statutaires ont prévu qu'il faut qu'il y ait une réunion au moins par mois. Mais malheureusement, cela n'a pas été le cas. Et face à cette situation, la structure d'État qui a en charge le contrôle de tous les mouvements sportifs a demandé tout simplement au comité exécutif de respecter ces dispositions. En retour, le comité exécutif répond en disant: nous ne respectons pas ce que vous nous dites. Nous allons faire ce que nous voulons. On va se retrouver devant quelle situation? Du non-respect de nos textes.
Et réagissez à toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte X. Le Mali affirme n'avoir signé aucune subvention de l'USAID depuis 2 ans. Le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale du Mali l'a fait savoir ce lundi dans un communiqué. Une déclaration qui fait suite à l'annonce des États-Unis le 15 février dernier sur l'annulation d'une subvention de 14 millions de dollars, soit plus de 8 milliards de francs CFA, destinée à la cohésion sociale au Mali. Khalifa Guita.
Le ministère des Affaires étrangères déclare que le Mali s'est réservé depuis 2 ans de signer l'accord quinquennal de subvention d'objectifs de développement avec l'Agence américaine pour le développement international USAID. Le communiqué précise que certaines activités, notamment celles relatives à la cohésion sociale, ont été ajournées en raison du non-respect des priorités et procédures d'exécution nationale. En plus d'être surpris par l'annonce américaine, le ministère des Affaires étrangères ajoute avoir saisi officiellement les autorités autorités américaines pour clarifier cette situation. Dans la foulée, le Mali dénonce également l'utilisation détournée de l'aide publique au développement, accusée de financer les réseaux terroristes et de violer la souveraineté des États. Par ailleurs, le gouvernement malien invite les autorités américaines à engager des poursuites judiciaires contre les personnes qui ont détourné les dits fonds pour financer le terrorisme international au Mali et dans les autres pays de la Confédération des États du Sahel. Enfin, le Mali dit se reconnaître dans la nouvelle orientation des autorités américaines visant à assainir et à humaniser leurs subventions.
La commission de rédaction de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale poursuit ses rencontres avec les forces vives de la nation. Ce 25 février, elle a consulté les membres du Conseil économique, social, environnemental et culturel dans les locaux de l'institution. Cette entrevue vise à acquérir leurs recommandations et contributions sur le document. Yacouba Katilé, le président de l'organe, a exprimé sa satisfaction pour la qualité du projet de charte. Toutefois, il a recommandé de mettre en avant l'équilibre entre la réparation et la prévention des conflits dans la charte. Il est ici au micro de Jadat Maïga.
Nous avons relevé avec satisfaction que certaines de nos recommandations ont été prises en compte, témoignant ainsi d'une volonté d'inclusivité et d'écoute. Toutefois, l'équilibre entre réparation et prévention demeure un enjeu central. Il est essentiel que cette charte ne soit pas seulement un outil de correction des erreurs du passé, mais également un instrument de prévention des conflits futurs, garantissant ainsi une paix durable et une cohésion nationale renforcée. Qui reflète au mieux les aspirations profondes de la société. Nous espérons que la version finale de cette charte traduira l'unité, la résilience et l'ambition de notre nation à bâtir un avenir commun fondé sur la justice et le dialogue permanent.
Studio Tamani, projet de la Fondation Hirondelle au Mali, en partenariat avec l'Union des radios et télévisions libres du Mali, URTEL, financé par l'Union européenne, le gouvernement du Danemark, de la Suisse, du Royaume-Uni et par la coopération espagnole.
La consommation des réseaux sociaux et leurs conséquences est mal de notre siècle. Ces réseaux sociaux ont créé un nouvel espace, mais cette fois-ci virtuel. Et cette virtualité donne la possibilité à des gens de dire des choses dont ils ne sont pas capables en présentiel. Est-ce un avantage ou un inconvénient? Lala Diarra Touré.
Ce qui est écœurant, c'est de voir sur ce réseau des personnages plus âgés qui s'adonnent à des pratiques inconvenantes comme les injures graves, les propos ou pratiques qui font atteinte à la pudeur.
C'était là Balafani, traditionnaliste à Deuila. Et pour expliquer cette dérive dans les comportements, Fodié Tandjigora, sociologue, parle de la dématérialisation des rapports humains à cause des réseaux sociaux. Aujourd'hui, tout le monde a la parole.
Les individus sont beaucoup plus capables de faire des actes dont ils ne seraient pas capables dans un contexte de présence physique. Finalement, c'est grâce ou à cause des réseaux sociaux que beaucoup de gens ont pu avoir accès à la parole. C'est ce qui favorise beaucoup de dérive dans nos comportements aujourd'hui.
Mais qu'en est-il de l'avis des internautes? Quelques-uns auxquels nous avons tendu notre micro ont des avis divergents, même si la majorité trouve ces contenus déplacés.
En tant que femme, en tant que maman, venir sur les réseaux comme ça, dire des grossièretés, ça fait honte, c'est désolant quoi.
Nous allons un peu vers la perte.
Une personne qui a des valeurs et de bonne moralité ne va jamais aller s'asseoir sur les réseaux sociaux, insulter ou humilier une autre personne.
Bon, moi, personnellement, c'est des choses que j'adore écouter parce que dans la plupart, il y a des histoires vraiment drôles qui circulent.
C'est vraiment dommage. Ça ternit l'image même du pays. Quoi.
Balafani, traditionnaliste à Deuila, s'insurge contre ces faits qui, selon lui, vont à l'encontre de nos mœurs.
Ces pratiques sont contraires à nos coutumes et leurs pratiquants déshonorent notre identité culturelle, le Mogoya, le Mogosebeya, le Mogosebe Dignan, le Horonyan, sanctionné par le Sinankunya.
Cette manière d'utiliser les réseaux sociaux peut impacter négativement les parents et des proches. Pour y remédier, le sociologue Fodié Tandjigora propose l'implication des internautes, sans qui la lutte ne peut aller à échéance.
D'abord, ces personnes compromettent leur avenir et puis celui de leurs enfants, parce que personne ne veut être le parent d'un individu qui insulte sur les réseaux sociaux. Et voir une personne âgée insulter grossièrement était extrêmement choquant. choquant pour les Maliens que nous sommes. Mais malheureusement, les réseaux sociaux ont libéralisé la parole. Nous ne savons plus qui nous sommes finalement. Pour y remédier, l'effort est au niveau de chaque consommateur des réseaux sociaux de refuser de partager ces messages-là.
En attendant que les gens aient une bonne compréhension de l'utilisation des réseaux sociaux, sa mauvaise utilisation continue de faire des dommages pour la Terre.
Place maintenant à Sékou Gadjigo pour l'introduction du grand dialogue. Bonsoir Sékou, alors c'est quoi le thème d'aujourd'hui?
Bonsoir Adamo, classe politique, les langues se délient enfin, c'est le thème du grand dialogue d'aujourd'hui. Pour en parler, nous recevons Dr Souleymane Keïta, enseignant-chercheur analyste politique, professeur Abdoul Sogodogo, enseignant-chercheur politiste et Dr Amadou Touré, enseignant-chercheur également et analyste politique.
Merci Sékou, bon débat et bonne écoute à nos auditeurs. 18h passées des 10 minutes et quelques secondes dans ce studio. Ainsi se referme ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne soirée à tous et à demain. Plaise à Dieu. Effondrement des mines au Mali, les femmes premières victimes. C'est le thème de notre magazine « Toutes les femmes du Mali » d'aujourd'hui, présenté par Lale Tangara.
Sira Makalou est orpailleuse à Talato dans le cercle de Kenyeba en région de Kai. Cette mère de famille est une survivante de l'effondrement de la mine de Talato. Elle explique avec regret comment le drame s'est produit.
Le pilier qui soutient la fosse a été affecté par l'humidité et finalement il a cédé pendant que de nombreuses femmes étaient encore là-dessous. C'est arrivé aux environs de 7h du matin. Ce travail est vraiment risqué et nous en sommes conscientes. Mais nous n'avons pas d'autres activités que l'orpaillage.
Que leur paillage et nous devons subvenir aux besoins de nos familles. C'est l'opinion partagée par ces femmes face à ce drame qui a emporté une cinquantaine d'entre elles. C'est pourquoi la coordination locale des associations et ONG féminines de Kenyeba demande aux autorités locales d'entreprendre des mesures pour la fermeture immédiate des fosses exploitées. Geneva Dansoko souhaite qu'on initie les femmes de sa localité à d'autres activités génératrices de revenus.
Nous demandons un dialogue entre les exploitants miniers. Il faut remblayer les fosses après exploitation. Cela peut protéger les femmes et éviter aux hommes d'être des veufs. Sinon, même permettre à ces femmes d'exercer d'autres métiers comme l'élevage, le maraîchage, la saponification, entre autres.
Ainsi, Mme Kouyaté Ogundo Sissoko, présidente de la coordination des associations et ONG féminines du Mali, recommande aux autorités d'intensifier les campagnes de sensibilisation. Aussi, elle leur demande de faire accompagner les femmes.
Les autorités doivent renforcer la surveillance des sites miniers, sensibiliser au maximum les exploitants sur la norme de sécurité et imposer même des mesures strictes pour éviter le tel drame. Également, il faut envisager d'autres pistes, notamment des initiatives locales comme la mise en place de coopératives minières encadrées et l'intégration des programmes de formation sur les risques miniers.
Les exploitants de l'orpaillage artisanal sont-ils régis par des règlements pour protéger les travailleurs sur le site? Kankou Madi Keïta, représentant du chef de village de Talato, répond par non. Il signale qu'aucune mesure n'est prise sur place pour prévenir d'éventuels dégâts sur les sites.
Les exploitants ne referment pas les fossés après les travaux et ils n'interviennent pas en cas d'accident de travail, qu'importe les dégâts. À notre niveau, aucune mesure de prévention n'est prise sur les sites. Il faudrait que les exploitants insiste pour bénéficier d'une prise en charge.
En tout cas, au lendemain de l'effondrement de la mine, le ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, Mme Diarra Djeneba Sanogo, s'est rendue sur place avec d'autres de l'équipe gouvernementale. Elle a donné l'assurance que la réflexion sera menée pour adopter de nouvelles stratégies afin d'éviter ce type de drame à l'avenir. Nous l'écoutons au micro de nos confrères de l'ORTM.
Cette activité est majoritairement pratiquée aussi par les femmes pour subvenir à leurs besoins. Suite à ça, je pense qu'avec les différents acteurs qui sont concernés pour ce problème-là, nous allons mener des réflexions pour voir quelles stratégies développer afin d'éviter ce genre de situation.
À noter que toutes nos tentatives pour faire réagir des sociétés d'exploitation minière et le ministère en charge des mines ont été vaines. Leur réaction allait nous permettre de mieux comprendre le fonctionnement des entreprises minières, la différence entre une mine industrielle et artisanale et les dispositions de prévention prévues par le code minier.